France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Martin Rueff. Ce livre, qu'on pourrait nommer dans la continuité de Michel Duguy, Tombeau, Traîne ou Catabase, est dense, déchirant et, j'ose le dire, nécessaire.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Normalement, ça devrait être possible. Allumez votre radio, mais mettez votre téléphone en mode avion. Ce petit réglage qui permet de n'être plus joignable, de ne pas perturber les pilotes qui naviguent et au passage, de se consacrer à l'impossible présence au présent, de guetter son affluence. Dans son dernier livre titré donc « Mode avion », Martin Rueff vole avec deux ailes, marche sur deux pieds, bref, conjugue au moins deux temps simultanément, tous deux extra-contemporains et se rejoignant dans l'intimité du poème. Peut-être que c'est un hommage au grand écrivain joyeux et exigeant théoricien Michel Duguy, né en 1930 et mort en 2022, et sûrement ce n'est pas que cela. En regardant une vie entière consacrée au poème, l'autre nom du réel où l'on se cogne, et à la poétique, Martin Rueff compose une boule à sept facettes et aux milliers de reflets littéraires et philosophiques. Je pèse mes mots tellement ça danse. Il est l'invité de votre book club aujourd'hui. Et bienvenue à toutes et à tous dans ce book club. Bonjour Martin Rueff.
Bonjour Marie Richeux.
Mode avion apparu aux éditions de l'Extrême Contemporain. Vous avez reçu tout récemment, en décembre dernier, le Grand Prix de l'Académie française. Bravo pour l'ensemble de votre œuvre. Bienvenue dans le Book Club, cette maison que vous connaissez, cette table qui vous est familière. Vous avez tenu ici une chronique qui s'appelle « Les lectures d'actualité ». On renvoie nos auditrices et auditeurs à la réécoute de ces lectures que vous nous proposiez en écho avec l'actualité du moment. Et puis, vous avez aussi, vous êtes venu en tant que auteur et traducteur à plusieurs reprises ici au Book Club. Donc, vous avez répondu au questionnaire à lecture qui augure et inaugure à chaque fois nos émissions. On renverra à la pluralité de vos actualités éditoriales qui sont nombreuses en ce 2026 qui commence. Mais donc, on ne va pas vous resoumettre au questionnaire lecture. On propose à nos auditrices et auditeurs, pourquoi pas, de le réécouter, ce questionnaire lecture. Vous aviez dit que vous aviez non pas appris à lire au Canada où vous êtes né, mais à Marseille, vous avez atterri à l'âge de 4-5 ans, mais que vous gardiez très présente en vous la pluralité des langues, ce premier bain qui avait été le vôtre, ce premier bain sonore de l'enfance, petite enfance passée au Canada. Vous aviez aussi parlé, je fais un bref résumé, hein, vous me dites si je me gourve, mais de la manière dont vous avez été électrisée par la lecture d'Arthur Rimbaud, et peut-être se rejouait là pour vous une forme d'étrangeté de la langue poétique, et c'est quelque chose qui vous a pas quitté, ce rapport électrique à la poésie. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de livres chez vous, dont des livres de poésie, des livres de poche de poésie dont vous gardiez intact l'odeur particulière. Quand je vous ai demandé à l'époque un autre moment électrique dans votre vie de lecteur, vous m'avez parlé de l'apprentissage du grec. Pareil, oui. Passion qui ne vous a pas quitté. Vous me disiez à ce moment-là combien ça a été fondamental de pouvoir apprendre, lire et parler une langue si ancienne. Vous soulignez à cette époque-là aussi l'importance pour vous du savoir, qui n'est pas à délier du rapport intime et émotionnel à la littérature. Vous faisiez de ce savoir un rapport absolument démocratique, et vous le défendiez à l'époque où c'était déjà, c'était il n'y a pas si longtemps, mais peut-être quelque chose de fragilisé. Et je continue mon résumé électrique en disant que vous aviez évidemment été très marqué, me disiez-vous, par la lecture de Proust, de Dostoïevski, mais aussi de grands philosophes, Aristote, ou d'auteurs comme Michaud, et chez les plus contemporains, Bailly ou Courtois. Voilà, j'ai fait un petit résumé. Et peut-être ce questionnaire se terminait par « je suis tombé fou amoureux de l'Italie / de l'italien » et ça a été quelque chose de très important dans ma vie. C'est bien fait ou pas ?
C'est parfaitement fait, c'est parfait.
Donc oui. On refait pas de questionnaire lecture, non. Mais simplement puisque nous allons parler de cet auteur important qui s'appelle Michel Duguy, qui est donc né en 1930 et mort en 2022, est-ce que vous voulez bien qu'on se concentre dans ce questionnaire lecture numéro 2, Martin Rueff, sur votre découverte de l'œuvre de Michel Duguy, à quel moment de votre parcours, par quel texte et qu'est-ce que ça vous fait ?
Oui, c'est étrange que vous me posiez cette question parce que elle vient de raviver un souvenir que j'avais oublié et qui est la première rencontre avec l'œuvre de Duguy. Je me souviens très bien, c'était à Bologne, bien avant de connaître De Guy en personne, je venais d'écrire un poème qui s'appelait « Vanesse en la presqu'île ». Vanesse, c'est un papillon. Et donc, j'avais écrit un poème qui s'appelait « Vanesse en la presqu'île ». Et j'étais assez fier de moi parce que, dans ce poème, je faisais du mot « presqu'île » un mot féministe. C'est-à-dire, je disais « elle, c'est plus qu'il, et la presqu'île, c'est presque elle ». Bon, vous imaginez la densité merveilleuse de ce jeu de mots. Bon, je fais ce poème et je vais chez des amis à Bologne, je me souviens très bien, un traducteur merveilleux, Alessandro Serra, et je tombe dans son salon, mon regard tombe sur un livre qui s'appelait « Poèmes de la presqu'île », et c'était les poèmes de De Guy.
Incroyable.
Et je ne connaissais pas les poèmes, et évidemment, De Guy fait de la presqu'île tout autre chose que je n'en avais fait dans ce poème que je n'ai pas retenu, mais ça m'avait frappé que lui-même... voilà, alors c'est un recueil qui a une très grande densité poétique. Voilà, c'est la première rencontre.
Mais vous l'avez embarqué, ce livre, chez votre ami italien ?
Oui. Oui.
Bah c'est bien, c'est à ça que ça sert d'avoir
oui, absolument.
Chez les copains.
Et ensuite, j'ai rencontré De Guy bien plus tard, pratiquement 10 ans plus tard. La rencontre était tout à fait formidable, comme il était lui. Et en fait, elle avait suivi un échange de lettres liées à une proposition d'articles, d'abord d'articles, puis ensuite de poèmes que j'avais fait à la revue Poésie. Proposition que j'avais faite à la revue Poésie.
Revue qu'il dirigeait à ce moment-là et dont vous avez repris la direction.
Absolument,
ensuite.
Absolument.
Peut-être
absolument.
Dans une logique, on va le voir aussi, au milieu de ce qu'il était, et peut-être on va déplier comme il était, il y a une sorte de vent de transmission vers vous,
oui.
Martin Rueff. Mais peut-être on s'attarde un instant avant qu'on ouvre un peu plus largement ses livres à lui et son œuvre. Comment il était ? Parce que c'est quelque chose sur lequel vous revenez dans Mode Avion.
Oui, alors vous avez remarqué que dans Mode Avion, il y a peu de ce qu'on appelait au 18e de personnalité, c'est-à-dire il y a peu de choses personnelles finalement sur notre relation amicale et sur notre intimité. Mais il y a quelque chose que je peux dire parce qu'elle consonne avec ce que vous venez de dire. De Guy, c'est quelqu'un qui rendait possible. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des écrivains, des écrivaines qui impressionnent tellement qu'ils empêchent, qu'ils interdisent, qu'ils entravent même parfois. Et on en connaît, c'est-à-dire des écrivains à la suite desquels on se dit « on ne pourra plus écrire, je ne pourrai plus faire ce que je voulais faire ». De Guy était quelqu'un qui, dans le privé, comme d'ailleurs dans le public, rendait possible et invitait tout le temps ses interlocutrices et ses interlocuteurs à faire des choses. Il était vraiment traversé par la passion de l'action, et pour lui l'action, elle était politique aussi, mais elle était surtout littéraire. Et par exemple, je me souviens quand j'avais commencé à m'intéresser à ses travaux, que j'avais projeté de faire un livre sur lui, il m'avait dit, bien qu'il fût content de ça, hein, évidemment, il n'était pas hostile au fait qu'on s'intéresse à lui, tout au contraire, mais il m'avait dit, oui, mais vos poèmes d'abord, vos textes d'abord, etc. Et donc, et dans la revue, dans la vie de la revue, c'est quelqu'un qui était très accueillant, et plus, hein, qui rendait possible, qui, voilà, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, la première question, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous écrivez, etc. Donc ça, c'était merveilleux, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de lui, et je peux dire que des poètes de sa génération, il appartient à la grande génération des années 30, Bonnefoy, Jacoté, etc., Dupin ensuite, Roubaud évidemment, eh bien, il était celui, me semble-t-il, de ce merveilleux moment de la poésie française qui a le plus voulu rendre la poésie collective, commune, un travail commun dans la traduction, mais aussi évidemment dans l'activité de la revue.
Et alors, le lecteur que vous êtes à ce moment-là, qu'est-ce qui l'attrape dans l'œuvre de Michel De Guy pour pouvoir et vouloir lui consacrer ensuite des articles de commentaires et des poèmes, puis un livre ?
Alors, évidemment, c'est la question principale, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un homme encore jeune à l'époque, trouve dans un autre poète, qui est un poète très connu, un poète bien plus âgé que moi, bien plus, avancé dans l'œuvre que moi. Qu'est-ce que j'ai pu trouver en lui ? Alors je dirais que, pour l'essentiel, en fait, deux choses. La première, je viens de vous la dire, c'est que c'était la liberté. Alors De Guy, c'était la liberté absolue, dans l'existence, comme dans le poème. Le poème fait feu de tout bois, fait flèche avec tout, et donc cette idée qu'on doit tout ramassé pour faire poème, de la, disons, la conversation, de la, des tropismes, hein, de ce que Nathalie Sarraute aurait appelé des tropismes, les petites choses de la conversation, etc., au savoir le plus haut, ça peut rentrer dans le poème. Donc ça, c'était cette liberté. Et puis, deuxièmement, un point qui, pour moi, vous le rappelez, a toujours été important, qui était la question du savoir. C'est-à-dire que le poème est un lieu dans lequel se construit un savoir, qui en partie d'ailleurs échappe au poète, mais en partie le poème peut se faire convoi d'un savoir qui le précède, pas simplement le savoir de la poésie et des anciens savoirs, mais par exemple, comme on reconnaît volontiers ce savoir au romancier, mais on est un peu plus réticente et réticent à l'accorder au poète, mais le poète est aussi quelqu'un qui lit beaucoup de livres et qui peut vouloir mobiliser ce savoir. Alors, évidemment, ensuite, la question, hein, c'est un petit peu comme pour les aliments, le pourcentage de ce qu'on peut mettre dans un plat. Il faut que ce savoir, évidemment, soit à la fois subjectivé, c'est-à-dire qu'il passe par la voix du poète, et puis qu'il soit, pour ainsi dire, si vous me permettez la formule, allégé par densification. Et donc, voilà. Alors, il y a des poètes de ma génération et de la génération de De Guy qui font des poèmes didactiques. C'est pas tout à fait mon style, mais voilà ce que j'ai trouvé chez De Guy. Et puis, évidemment, dans ce savoir, il y a un savoir particulier qui me traverse et qui est aussi à l'œuvre dans d'autres de mes pratiques, qui est le savoir des langues, de la langue. C'est quelqu'un qui aimait faire entendre la langue, qui aimait faire entendre les langues. Hein. Dans le poème de Guy, par exemple, il y a du latin, il y a du grec, il y a de l'italien, il y a du portugais, il y a de l'allemand. Hein. Et quand De Guy passe à ce type de poétique, c'est-à-dire après, disons, le virage chez 66-67, quand il accepte, si vous voulez, d'inverser la formule de Mallarmé, les langues imparfaites parce que plusieurs, alors lui, il aimait dire les langues parfaites parce que plusieurs, eh bien, quand il décide de faire ça, un peu comme Dylan dans le fameux concert où il fait de l'électrique alors que les gens attendent du folk, il perd beaucoup de lecteurs. Et ça, je trouve ça formidable.
De perdre des lecteurs ?
Oui, oui.
D'avoir la liberté d'être d'accord, voilà, pour les perdre. Voilà. Parce que, comme par ailleurs, il est beaucoup question justement de la perte et de ce qu'on fait vis-à-vis de la perte et de comment est-ce qu'on fait avec la perte. Dans votre texte Mode Avion, Martin Rueff, c'est intéressant que vous le souligniez. Peut-être un instant aussi sur la forme que prend le savoir. Vous dites le poète, la poétesse dispose d'un savoir et le poème peut être véhicule de ce savoir, mais on peut dire que Michel De Guy fait autre chose avec son savoir, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça passe dans le poème, et puis ça passe dans d'autres formes. Il y avait la poésie chez Michel De Guy, mais aussi la poétique, un aspect plus ouvertement théorique.
Ah, oui.
Est-ce que c'est quelque chose que vous, en tant que lecteur, Martin Rueff, jeune lecteur, voilà, qui vous intéresse aussi?
Oui. C'est très important de rappeler ça à propos de De Guy, et, si je puis me permettre, à propos de mes préoccupations. Pourquoi ? Parce que le public attend de la poésie un certain nombre de dispositions sentimentales qui viennent de l'école, mais qui viennent aussi de la fréquentation d'amis, etc. On se passe des poèmes. Et donc, on a l'impression constamment que le poème impose sa force d'immédiateté. D'accord ? Et on se dit, voilà, c'est un beau poème d'amour, c'est un beau poème sentimental, etc. Et on ne se rend pas compte, on ne s'en rend plus compte que le poème est aussi une technique qui va avec des savoirs, qui comporte un certain type d'opérations de savoir, et ces opérations qui disent pourquoi le poème est poème, c'est la poétique. Et donc, l'ambition de Guy, c'était de faire de la poétique un savoir partageable, un savoir non pas réservé aux poètes et aux philosophes, mais un savoir transmissible. Vous avez utilisé la belle expression de vent de transmission, je crois. Eh bien, dans la poétique de De Guy, il y a un vent de transmission. Et du coup, par exemple, c'est quelqu'un qui a multiplié ce qu'on pourrait appeler, il y a qu'un seul de ses livres qui porte vraiment ce titre, des traités de poétique. Mmh. Hein, la poésie n'est pas seule, il avait toujours des titres magnifiques, hein, De Guy. La poésie n'est pas seule, réouverture après travaux, critique de la raison poétique, mais aussi la vie subite, etc. Donc ce sont des livres dans lesquels De Guy réfléchit à la fois sur ce qui fait qu'un poème est poème, et la manière dont le poème pourrait aujourd'hui rentrer dans ce qu'il appelle le débat, faire rentrer le poème dans le débat. Et évidemment, cette exigence, elle me tenaillait, parce que il ne faut pas que la poésie et pour seules lectrices et lecteurs, les poètes eux-mêmes, ça serait dommage. Et voilà, c'est vrai que grâce à vous et à d'autres, hein, la poésie existe aussi dans l'espace public, donc c'est très important. De Guy était très attentif à cela, il était assez ennemi de ce qu'il appelait la poésie apéritive, hein. Vous prendrez bien un petit poème, hein, donc, par exemple dans le métro ou au début d'une cérémonie quand on fait lire un poème, etc. Donc il disait, mais non, la poésie c'est quelque chose qui, sans, disons, assumer une position de grandiloquence et grand poème, etc. Non, mais la poésie c'est un art du langage, en tout cas une pratique artistique du langage, et elle mérite qu'on s'y attache, et qu'on s'y attache vraiment, avec des moyens propres, voilà.
Vous le disiez, dans Mode Avion, il n'est à aucun moment question de raconter ce qui a pu vous unir au-delà du territoire proprement intellectuel et de l'écriture à Michel De Guy. Pour autant, c'est souterrain.
Oui.
Est-ce que vous voulez dire un mot de ce que cela fait ensuite d'avoir lu quelqu'un et ensuite d'avoir avec cette personne des conversations, slash des conversations amicales, slash une amitié?
Oui.
Est-ce que ça change quelque chose à la vie de lecteur? Et est-ce que c'est intéressant de le dire, ou vraiment ce sont deux champs, un qui serait l'intimité et l'autre qui serait l'intimité du poème, que vraiment ça ne vaut pas la peine de faire se rencontrer?
Non, non, je pense que on peut répondre de deux manières, Marie-Riche. D'une part, je pense qu'il y a des... Vous savez, vous connaissez, on emploie parfois cette formule, non? Il y a des gens qui gagnent à être connus. Hein, mm-hmm. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent à ne pas être connus. Ça, c'est vrai. Il y a des écrivaines et des écrivains que nous aimons qui gagnent à ne pas être connus parce que leur travers, leur vanité, parfois, peut entraver ensuite, hein, la lecture de leurs œuvres. De Guy, c'était tout le contraire parce que c'était je sais pas comment dire.
Un chic type.
Ouais. Un grand vivant.
J'essaye de vous aider
un grand vivant.
Avec l'émotion. Un grand vivant.
Ouais.
On va parler de votre livre Mode Avion, juste après cette chanson que vous nous avez soufflée à l'oreille. C'est une chanson d'Andrea Laszlo de Simone qui s'appelle
Conquilier.
Merci. Sortie en 2022 et qui dirait à peu près « Tu ne t'es pas fait mal, comme je le pensais, tu vois, ça sert à rien de se protéger du vent. Nous ne sommes que des coquillages éparpillés sur le sable. Rien ne pourra revenir. »
Non ti sei fatto male, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente ripararsi dal vento. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo. Sei un po' spaventato, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente rintanarti in te stesso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo.
Marie Richeux.
Continuer sans Michel De Guy, mais comme avec lui. Continuer De Guy, Voilà ce que propose, entre autres, le livre au programme de notre book club aujourd'hui. Ce grand poète et théoricien français, né en 1930 et mort en 2022, vous nous suggérez, Martin Rueff, d'en rejoindre les prodigieux efforts et puissances de formulation. Et même si votre téléphone est en mode avion, c'est le titre de votre livre, vous recevez des textos de Stéphane Mallarmé, des nouvelles de la guerre en Ukraine, des images filmées depuis les enfers par Orphée, qui se retourne et qui perd, mais aussi un commentaire de Jacques Derrida, bref, toute l'affluence du présent. Je ne vois pas comment mieux décrire ce livre touffu et léger, rapide à la fois, qui s'arrime à l'œuvre de Michel Deguy tout en faisant vivre votre propre poésie et en convoquant la profondeur d'un savoir littéraire et philosophique. Si la poésie est entremetteuse qui concilie le nouveau monde et les nouveaux venus, alors engageons-nous là-dedans avec vous, Martin Rueff, Mode Avion, apparu aux éditions de l'Extrême Contemporain. On va commencer par lui et sa voix, Michel Deguy, qui lit le poème liminaire du tombeau de Du Bellay, paru en 1973 à la NRF.
Le poème liminaire du tombeau de Du Bellay s'intitule « Qui, quoi ?»« Il y a longtemps que tu n'existes pas, visage quelquefois célèbre et suffisant. » Comment je t'aime, je ne sais, depuis longtemps, je t'aime avec indifférence, je t'aime à haine, par omission, par murmure, par lâcheté, avec obstination, contre toute vraisemblance. Je t'aime en te perdant, pour perdre ce moi qui refuse d'être des nôtres, entraîné de poupe, ce balcon chantourné sur le sel. Exquis, de dos traîné entre deux eaux, maintenant quoi ? Bouche punie, cœur arpentant l'orbite, une question à tout frayant en vain le tiers.
Voilà, donc on pourrait presque passer une heure à commenter ce poème « Qui quoi ?» Martin Rueff. Vous parlez de Michel Deguy dans Mode Avion, on pourrait dire les choses comme ça, très très simplement. Vous parlez de lui, avec lui, après sa mort survenue en 2022. Pourquoi est-ce que le tombeau de Du Bellay, paru en 1973, signé donc Michel Deguy et qui souffre par ce qui quoi qu'il vient de lire ici presque de manière assez détachée, oui. Pourquoi est-ce que c'est important, on va dire pivot, pour comprendre pas tant l'œuvre de Deguy, mais la manière dont vous la traversez avec Mode Avion ?
Oui. Je t'aime en te perdant, ouais. Dit le poème. Je t'aime en te perdant. Cette formule est vraiment, d'une certaine manière, une concentration de ce que Deguy trouve dans Du Bellay. Donc, Tombeau de Du Bellay, ce texte naît d'une certaine manière comme un hommage à Du Bellay à l'occasion d'un anniversaire de sa mort. Et Deguy, dans le Tombeau de Du Bellay, invente un geste, si vous voulez, découvre chez Du Bellay un geste qui est le geste du regret. Tout le monde connaît, enfin les gens qui l'ont étudié à l'école ou qui l'ont lu, le motif des regrets de Du Bellay. Du Bellay va en ambassade à Rome avec son oncle et dans Rome, au lieu de trouver les merveilles qui l'enchantaient quand il lisait la littérature sur Rome, il ne trouve que des déceptions, des ruines, des manques, des vides. Et Deguy dit voilà, en fait, dans cette inadéquation entre le souvenir et le présent, Du Bellay formule un trait essentiel de la poésie, lui dit française, mais on comprend que pour lui, c'est le dire de la poésie, c'est le défaut, le manque. Et donc le tombeau de Du Bellay, qui est vraiment un hommage à Du Bellay, et aussi un livre, d'une certaine manière, sur Du Bellay, un peu d'histoire littéraire, si vous voulez, mais qui est troué de poèmes, de commentaires, d'échappées, de lignes de fuite, comme Deguy sait faire avec détachement, vous l'avez bien dit. C'est un livre, en réalité, sur ce qu'est l'art de la poésie, selon Deguy. Et pour moi, en effet, c'est vraiment, d'ailleurs, pour beaucoup de lectrices et de lecteurs, c'est le plus grand livre de Deguy. Mais bon, on peut dire ça, je pense que tout le monde a son Deguy comme on l'a d'autres grands écrivains. Mais c'est vrai que le tombeau donne à Deguy, je dirais, trois choses. D'abord, l'idée qu'on peut aller très loin dans l'étude d'un poète pour développer sa propre poésie. Et ce geste, d'une certaine manière, je le refais moi dans Mode Avion. Deuxièmement, que la tonalité du regret, avec aussi l'humour et le détachement pour rendre justement ce deuil, ce travail du deuil supportable, est une tonalité française très importante. Alors, De Guy fait une généalogie, on pourrait en faire d'autres, hein, mais il y retrouve, par exemple, Laforgue. Hein, Laforgue, un poète qui aime ce que moi, dans mon lexique, j'appelle hein, le Mali malingre. C'est-à-dire quelque chose de léger et en même temps mélancolique, comme la chanson qu'on vient d'entendre, mmh. avec l'arpège de guitare dessous mmh. qui donne l'impression de légèreté, de montée, et en même temps une gravité dans les paroles que vous avez traduites, et de la voix de Andrea Laszlo De Simone. Et puis la troisième chose, hein, que alors je pratique dans Mode Avion de manière beaucoup plus explicite que dans d'autres livres, hein, qui est le mélange des genres. Mmh. Hein. Et De Guy a contribué à ce que Bailly appelle avec beaucoup de force dans un livre qui a fait date lui aussi, hein, l'élargissement du poème. C'est-à-dire que le poème, ce n'est pas simplement la versification, le métrage du langage et son alignement sur la page, c'est une espèce de nouvelle respiration du langage, une nouvelle manière de regarder le langage pour écrire aussi dans les traces de nos vies.
Alors peut-être avant qu'on en vienne justement à la forme que ça engendre pour votre livre oui. Mode Avion, Martin Rueff, un instant sur comme ces deux dates que vous pointez dans la vie de Michel De Guy, le tombeau de Dubélet et 1966 que vous avez rapidement évoqué tout à l'heure. C'est quoi cette date 1966 ?
Alors c'est étonnant, Marie Richeux, que Antoine Compagnon vient de consacrer un livre qui s'appelle 1966, année mirifique. Et donc, je travaillais en parallèle à ce livre que je n'ai découvert qu'après. Alors, je ne reviens pas sur le livre de Compagnon qui est passionnant et que les lectrices et lecteurs découvriront. 66, c'est une année très importante pour De Guy parce que, à 15 jours d'intervalle, à l'époque, les éditeurs faisaient ça, ils publient deux livres. Juillet, 30 juillet, 15 août, il publie « Oui dire », qui est selon lui son plus beau livre de poème, donc ça c'est lui qui le disait, mm-hmm. qui est un livre fait d'épigrammes, vraiment un livre très dense, avec des vers en effet merveilleux. Et à côté de cela, il publie un livre hein, qui s'appelle « Actes ». Et dans « Actes », il mélange de la poétique, des poèmes, des études, des proses, du journal, il joue sur la graphie, il éclate la page, hein, et il fait vraiment œuvre moderne, si vous voulez. Et il me semble que ce livre est fondamental parce que il avait été précédé par un cycle qui s'achève avec Oui dire, poème de la Presqu'île, Les Meurtrières, B.F., qui sont des poèmes que les contemporains de Guy, les plus grands, Bonnefoy, Jacoté, etc., avaient reconnus comme la relève de la poésie, de la grande poésie française, du grand chant, de la nature, de l'évidence, si vous voulez, de faire des poèmes aujourd'hui. Et Acte brise cette évidence.
Rupture.
Rupture. Mais rupture de vraiment très, très, très forte. Hein. Et De Guy, on le disait, et vous avez plaisanté là-dessus à juste titre, perd des lecteurs. Mais en fait, cette perte de lecteurs, c'est pour lui la manière de rester fidèle au poème. Pas de rester fidèle à l'image de poète qu'il pouvait donner, et qui était déjà, il publiait chez Gallimard, dans La Blanche, c'était quelqu'un de très important. Il était en plus au comité de Gallimard, avec Desforêts, avec Queneau, enfin bon, avec le jeune Quignard. Donc si vous voulez, c'était
que des hommes. On reviendra là-dessus, Martin Rueff, parce qu'il n'y a
hommes.
Pas beaucoup de compagnie féminine dans Mode Avion.
Que des hommes, ouais. Mais que bon. Des hommes, voilà. Et non, mais ce n'est pas du tout une parenthèse
non, pas du tout.
Sur laquelle il faut passer, hein. je suis
mais
tout à
fait
prêt.
Mais c'est juste que ça donnerait presque, là aussi, l'occasion d'une émission entière, donc oui. Avançons.
Avançons, oui. Et donc 66, c'est vraiment la rupture, et à partir de cela, il ne va jamais cesser d'écrire des poèmes et des traités de poétique auxquels vous faisiez référence, mais à l'intérieur de ces poèmes même, il va faire rentrer la prose de la poétique, il va faire rentrer une densité de pensée dans le poème qui peut-être a désarçonné ses lectrices et ses lecteurs. Et je crois en effet que c'est une année charnière. Tombeau de Dubélet, 7 ans
c'est
après,
plus tard, ouais.
C'est plus tard. C'est une espèce, si vous voulez, d'achèvement ou de chef-d'œuvre de cette manière. Hein. Mm. Moi, je trouve que c'est important quand on lit des poètes de près. On pourrait faire la même chose avec Roubaud, on peut faire la même chose avec Fourcade, on peut faire même la même chose avec des poètes plus proches de moi dans les générations, hein, de distinguer des manières et de rappeler cette formule de Tsvetaïeva qui me semble très forte, ça me permet de citer une poétesse aussi.
J'ai bien vu, vous êtes très malin, Martin
Rueff. Non, pas du tout, c'est qu'elle a inventé une catégorisation qui, je pense, peut vous intéresser, peut intéresser nos auditrices et nos éditeurs, qui est la différence entre des poètes à histoire et des poètes sans histoire. Donc pour elle, c'est Pasternak, Mandelstam. Mm. Les poètes sans histoire, ce sont des poètes qui naissent avec une manière, un bagage d'images, une puissance lyrique propre, qu'ils ne vont jamais modifier. et puissance qui est telle que, quand on lit un poème de ce poète, disons des années 50 ou des années 80, c'est le même. Mmh. On sait qui c'est. Et elle dit, voilà, face à ces poètes, il y a des poètes à histoire qui sont des poètes que l'histoire traverse de manière si puissante qu'ils ne peuvent pas concevoir leur pratique poétique sinon comme une réponse à ces sollicitations, à ce que De Guy, par ailleurs, appelle les heures d'affluence. Voilà.
D'ailleurs, c'est très 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 beau la manière dont vous proposez de réfléchir avec De Guy, mais aussi Derrida. On y viendra justement à cette idée de à la fois des heures, mais aussi de l'affluence et aussi de la possibilité ou impossibilité d'être disponible à tout ça. Je voudrais qu'on écoute la voix de Pierre, auditeur du Book Club, qui vous a lu Martin Rueff et qui vous pose une question de ponctuation.
Bonjour le Book Club, bonjour Martin Rueff. Ce qui m'a d'emblée le plus touché dans votre livre, c'est qu'il reprend sans mimétisme aucun un agencement de Guillain dans l'alternance entre poèmes et prose, et que c'est pour vous l'occasion d'osciller entre le plus intime, la mort de l'ami, et des réflexions théoriques dont il me semble qu'elles deviennent elles-mêmes au fil du livre les clés de voûte de cette intimité. Il n'y a pas pour moi d'une part les poèmes et d'autre part les essais, mais un seul et même mouvement qui, comme le vent chez De Guy, enjambe avec des bottes de 7 lieues ou de 7 dés, de façon allègre parfois, pensive toujours. Ma question au poète que vous cherchez à être est la suivante. Si le deuil comme le poème n'en finissent pas, comment pour autant les ponctuer? C'est-à-dire, quel sort est-il réservé à la ponctuation dans vos poèmes et dans ceux de Michel De Guy? Merci beaucoup et belle journée au large abri du ciel.
Merci à vous, Pierre, pour cette question trop belle et trop dense pour être amplement dépliée. Mais on va faire ce qu'on peut avec Martin Rueff. Peut-être on peut s'attarder sur la fin de la question de Pierre et la question de la ponctuation du temps du deuil, comme la ponctuation, voilà, le sort que vous réservez à la ponctuation dans le poème.
Oui,
bonne chance.
Merci. Merci, Pierre, pour ces questions en effet très denses. Ouais. Ce qui me touche le plus, je peux le dire quand même, c'est que vous ayez perçu qu'il n'y ait pas d'un côté les proses et d'un côté les poèmes. Pour moi, c'est l'essentiel. Et quand je parle des deux ailes d'un avion, c'est un seul avion. Et voilà, un avion sans une aile, et ben, même si Apollinaire a fait un célèbre poème sur ces oiseaux qui n'ont qu'une aile et qui doivent voler à deux pour avancer. La question de la ponctuation, elle est centrale. Pour De Guy, elle est centrale au regard du deuil, parce que quand De Guy publie le volume de Traîne qui s'appelle « À ce qui n'en finit pas », qui est consacré à la mort de son épouse Monique, De Guy demande à l'éditeur que le volume ne soit pas paginé. C'est un livre non paginé, il n'y a pas de numéro de page. Donc c'est un livre qui fait une centaine de pages, si vous voulez. C'est son journal de deuil. Et il dit, en fait, comme le temps ne passe pas dans le deuil, en fait, c'est pas 1 plus 2 plus 3. Mmh. On est toujours dans le même présent qui est le présent de la mort. Mais Pierre, vous avez raison, le travail du deuil, on peut dire que c'est sa ponctuation, au sens où il s'agit quand même de trouver des repères pour continuer à vivre. Et là, De Guy fait ce que nous faisons tous, avec les moyens du petit bord que nous occupons, qui est de chercher des planches de salut ou des points d'accroche. Hein, et ça, c'est la ponctuation. Alors, je dis deux choses, simplement. La première, c'est que la ponctuation est constituée par des signes écrits qui n'existe pas à l'oral. Ça a l'air d'être une banalité que de dire ça, mais c'est la marque la plus certaine d'une espèce, si vous voulez, de prima de l'écriture sur l'oralité, c'est-à-dire que pour pouvoir organiser le sens et le rythme et l'intensité de nos voix dans un texte, et ô combien dans un poème, eh bien, il faut savoir ponctuer. Par ailleurs, ce que je dirais, c'est que dans Mode Avion, et dans les poèmes les huit grands poèmes qui composent la partie poétique, disons, de l'aile poétique de Mode Avion, la question de la ponctuation est d'autant plus importante que ce sont de longs poèmes. C'est un peu comme on aurait dit des laisses avant pour les poèmes médiévaux, avec une dimension narrative. Hein, j'essaie de faire rentrer d'une certaine manière, et là je me distingue de De Guy, plus que De Guy, le récit dans le poème. J'essaie de raconter quelque chose à travers le poème, de figurer en tout cas une narration dans le poème. Et là, la ponctuation est vraiment essentielle. Voilà, donc par exemple, dans le premier poème qui s'appelle « Sous le vent », j'essaie de réfléchir à la question des points de suspension, aussi, et des deux points. J'accorde une grande importance au point-virgule. J'essaie de limiter au maximum le point d'exclamation, parce que le point d'exclamation, c'est quand on met un point d'exclamation dans un poème, hein, on dit à la lectrice, au lecteur, c'est là que tu dois t'émouvoir, c'est là que c'est important, et donc si on fait ça, c'est que on spoiler, j'ai vu qu'il y avait un mot français pour dire spoiler, gâcher à l'avance, je sais pas comment on dit, on gâche l'effet, divulgâche, voilà, ça c'est un néologisme qui aurait plu à De Guy.
Peut-être on peut aussi s'appuyer sur la remarque de Pierre, ou cette belle question sur le rythme, la ponctuation du temps du deuil, y compris la métrique de votre livre, parce que je disais qu'il y a une sorte, oui, de boule à 7 facettes, 8 facettes, on est accueilli par un propos liminaire sur le nombre de seuils qui nous attend de Martin Rueff, nombre qui est lui-même trompeur. Enfin, il y a aussi tout un jeu comme ça sur la construction du livre qui est très dynamique. Et j'en viens à la fin de la question de Pierre où il disait, je ne sais pas comment il concluait, mais en faisant référence au vent, qui est un motif très important dans votre livre, peut-être que la réponse à la question de la ponctuation, elle est dans le vent. Elle est dans ce que le vent balaye, elle est dans ce que le vent fait accélérer, elle est dans ce que le vent fait planer. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un lien possible entre la question de Pierre sur la ponctuation et la place qu'il fait à la fin de sa question sur le vent et la place que vous faites au vent dans le commentaire de l'œuvre de De Guy, mais aussi peut-être dans, je sais pas, la vitesse de votre livre ou comment vous avancez poussé par le vent, etc., etc., etc.
Oui, parce que dans le livre... En fait, vous avez parlé de boule à 7 faces. Moi, j'utilise l'image du dé, mais c'est la même, en fait. C'est l'image du mouvement. C'est-à-dire que le dé, il roule. Hein, bon, c'est la formule. Et donc, en roulant, il délivre, si vous voulez, des parties, hein, les 7 parties du livre, qui sont chaque fois 2 faces, hein, un poème et une étude et un poème. Et donc, le dé, hein, c'est la ponctuation en mouvement. Et c'est d'autant plus important que j'ai été frappé, mais comme tout le monde, hein, par le fait que l'indication du chiffre sur les dés, hein, sur les 6 faces du dé, c'est un poinçon. Poinçonne le dé. Et le poinçon du dé, en fait, il est pour moi lié, dans mon imaginaire, mais je crois pas seulement, hein, au poinçon graveur des épitaphes des tombes romaines, hein, qui, justement, utilisait des majuscules et des signes de ponctuation, d'abréviation, pour que ça tienne, si vous voulez, sur une face. Et la face du tombeau et la face du dé, pour moi, se rejoignent. Alors, disons, là, c'est l'aspect, Marie Richeux, c'est l'aspect statique, mais si on donne du mouvement au tombeau, plutôt, je dirais, que d'imaginer que les gens se retournent dans leur tombe, l'idée que leur tombe puisse rouler comme des dés me paraît un peu plus joyeuse, un peu plus poussée par le vent, et je n'y vois évidemment rien de macabre, hein, pour ma part. Et
donc, non, au contraire, ça permet presque de répondre à Pierre qui demandait finalement quel est le sort qu'on réserve à la ponctuation dans le deuil, vous venez d'y répondre, et dans le poème.
Absolument, absolument.
Faites rouler les tombes.
Et je rappelle dans le livre à un moment que, en fait, pour les Romains, jouer au dé, c'était aussi une pratique de divination, et que souvent, on remplaçait les dés par des lettres. Et donc, si vous voulez, il y a tout un circuit dans le livre, hein, sur le poinçon, la ponctuation, le point du dé et la lettre.
Y compris certaines pages où on pourrait être face à une sorte de, oui, inscription cryptique, tombeau, gravure sur du marbre, mais aussi jeu de déchiffrage. Enfin, vraiment, il n'y a à aucun moment, et c'est pour ça que je tenais vraiment à dire à quel point ce livre il est touffu et léger, à aucun moment ça pèse. Vous l'avez dit, il y a plusieurs faces quand le dé tombe, et il y a un poème et une étude. On va lire un extrait d'un des poèmes. Icare crie dans un ciel d'Ukraine. Je t'apporte l'enfant d'une nuit dite du mai, Stéphane Mallarmé. C'est une séquence vidéo, tournée à Irpine, le 9 mars 2022. Un petit film de 35 secondes, comme il en existe des milliers, tournant en boucle, sur nos écrans et dans nos têtes. Une image de la vie meurtrie. Dans la guerre, une scène de vie. Dans une scène de guerre. Pas une image de cataclysme, de bombardements, de colonnes de chars, de combats de rue. Pas une de ces scènes où la Terre est vue de l'avion qui va lâcher sa bombe, ou d'un drone, non. Une de ces scènes de vie, tournée par qui ? Une de ces scènes cocasses, tendres, saisissantes. La première a été celle du paysan qui remorquait pour le voler un char avec son tracteur, la ruse contre les soldats, les vieux renards contre le tigre, dont le haut des bottes, lui. La seconde, celle des deux guerriers, qui volaient des poules dans des sacs blancs. Ils sont filmés depuis un appartement, et quelque chose du roman de renard semblait alors se jouer dans les baraquements, la neige, les uniformes, le brun, le blanc, le kaki. Et tu as pensé à Sam Ivel. Puis il y a eu Vera Litovchenko, en habit de grand gala, jouant du violon dans une cave de Kharkiv, assurant le qui-vive dans le qui-va-là. « J'ai besoin que la guerre s'arrête », dit-elle, en larmes. « J'ai besoin. » Nous entendons « j'ai besoin ». Et tu as pensé à Chagall et à ses violons, dans le ciel. Et à Sergueï Yaïdan, le poète du Donbass, qui a écrit « Pour vivre, il faut une espérance folle. Folle, 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 comme un violon balai qu'on transporte partout pour grimper dessus. » Ces images provoquent la pitié. Pas l'apitoiement, la violente pitié. La pitié rage, l'amour du monde, de la vie défendue. Quand les images des villes pilonnées, des ponts effondrés, des populations qui courent sous les bombes suscitent l'effroi pour eux, pour nous. Nous, la belle affaire, nous ne nous entourons pas, comme l'écrit Jean-Christophe, qui ne les entoure pas non plus, ne protège plus de rien, les encercler. Pour nous, qui ne savons que faire, que dire. Les images douces, les images drôles, les images bidasses, les images cocasses, les images nettes, les images troubles, les images prises sur le vif, sur la mort, les images vraies, les images trafiquées comme celle de la petite fille au fusil avec une sucette dans la bouche, mise en scène par son père pour dénoncer la violence du conflit. Elle pose comme pour une pub, de Benetton ou de Sisley, assise de travers la jambe pliée sur la rambarde, le fusil en diagonale, elle est coiffée, maquillée, un peu crâne. Quelque chose du cœur se serre et résiste, se cambre, refuse les images et nous avec emportés dans le temps des temps qui nous tiennent unis, séparés et provoquent en nous la rage, la honte rage et nous congèle comme dans la cold song de King Arthur. I can scarcely move or draw my breath. Let me freeze again the death. Et puis il y a cette image. Cette image, donc. Je m'arrête dans la lecture de ce magnifique poème qui est au milieu de votre livre « Mode avion » qui s'appelle donc « Icare crie dans un ciel d'Ukraine ». Et je m'arrête là où ça devient peut-être encore plus difficile, Martin Rueff.
Oui,
parce que je voulais qu'on fasse entendre la manière dont votre poésie existe dans « Mode avion ». Vous le disiez en tout début d'émission, Michel Deguy rendait possible et appelait le poème. Il disait « Oui, ok, formidable, commentons, théorisons, lisez-moi, ça m'intéresse, mais écrivez. » Et dans ce livre « Mode avion », vous étudiez de très près l'œuvre de Michel Deguy et vous êtes même équipé d'un savoir sur cette œuvre et de plusieurs autres savoirs. Mais vous écrivez. Et il y a ces poèmes. Et notamment ces poèmes qui sont percutés par l'histoire, percutés par le présent, percutés par la guerre, percuté ici par la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces sept faces-là, qui sont les sept faces poétiques ? Votre intervention peut-être plus claire dans ce livre.
Oui. Le poème que vous venez de lire, Marie Richeux, c'est un poème qui est né d'une rencontre étrange. J'avais publié, et c'est le premier livre de moi que Deguy d'ailleurs ait publié, dans la collection L'Extrême Contemporain, ancienne manière, pour ainsi dire, un livre qui s'appelait « Icare crie dans un ciel de craie », et qui était une espèce de long poème fait d'une dizaine de longues longlesses autour de la chute d'Icare. Et ce poème, c'est un poème des années, je crois, 2010. Et comme tout le monde, au moment du début de la guerre en Ukraine, qui a d'ailleurs éclaté deux jours après la mort de Deguy, j'ai vu passer une vidéo d'un petit garçon qui tapait sur un casque de soldat. Et cette image m'a inspiré un long poème qui ouvre le, en effet, qui, enfin non pas ouvre, il est au milieu, comme vous l'avez dit. Et en travaillant sur ce poème et en l'intégrant, vraiment le faisant tourner comme je fais très longtemps avant de le lâcher, en fait j'y ai vu, si vous voulez, j'y ai vu un petit Icare avant l'envol, et l'assonance cri dans un ciel de Cré, cri dans un ciel d'Ukraine m'a beaucoup frappé, et j'ai eu la chance extraordinaire d'aller lire ce poème à Kiev en pleine guerre, invité à un festival, et évidemment c'était aussi une occasion extraordinaire de faire vivre la poésie entre des gens qui subissaient la guerre et des gens qui la voient de loin comme nous. Et ce poème donne un peu le ton des autres poèmes, qui sont des poèmes assez longs, un peu narratifs, on l'a vu dans la manière dont vous l'avez lu, et je vous en remercie, un peu narratif. Un poème par exemple sur Rousseau, parce qu'on m'avait demandé d'écrire un poème sur Rousseau, j'avais dit non, et puis finalement j'ai élaborer quelque chose. Il y a aussi il y a deux longs poèmes, alors là, directement adressés à De Guy, Essorement des hommes à la Noria des morts, et puis Mode avion, le poème qui donne son titre au volume. Il y a deux poèmes sur, en prose, La paupière auriculaire et poème en Yakisugi, et puis un dernier poème qui m'a été inspiré, c'est un poème un peu politique lui aussi, par Trump, qui s'appelle The New Orpheum, qui est un poème que j'ai rédigé aux États-Unis, voilà.
Et qui travaille aussi la figure d'Orphée, qui est vraiment parmi les figures qui revient beaucoup dans votre livre Mode avion. On va entendre une nouvelle archive de Michel De Guy parler de l'emboîtement de la pensée philosophique et de la pensée poétique.
Qu'est-ce que la poésie, ou que peut le poète, ou à quoi bon les poètes dans un temps sombre, toutes ces expressions qu'on trouve dans la philosophie appartiennent à ce qu'est la poésie. Qu'est-ce qui permet de dire ça ? Eh bien, les textes très anciens, c'est-à-dire justement la rencontre de Socrate avec le poète qui s'appelle Ion, et qui le poète est harcelé par le philosophe, c'est-à-dire la question « qu'est-ce que ?», qui est la question philosophique et contemporaine du commun développement poésie-philosophie. Et ce n'est pas un point de vue théorique tardif qui serait importé de force dans la poésie beaucoup plus tard. La question « qu'est-ce que ?», c'est la question grecque, la question philosophique. La charge de cette inquiétude, si l'on veut, augmente, mais enfin, c'est une chose très ancienne.
Il est arrivé dans notre histoire récente qu'un philosophe et un poète se soient rencontrés, frôlés puis retrouvés par intermittence pour dire que les assises de notre appartenance au monde sont aussi fragiles que le langage tenace que nous employons pour les dire au moment qu'elles nous échappent. Un petit extrait de Mode avion, Martin Rueff, votre texte, et juste avant, une archive de 2000. Michel De Guy avait donné des entretiens à voix nue à Mathieu Benoizet sur France Culture, où il parle, de presque la question inextricable du qu'est-ce que c'est, à la fois philosophique et poétique. Ça aussi, c'est un des cœurs de votre livre Mode avion, notamment sur la rencontre en pensée et dans la vie de Michel De Guy et Jacques Derrida. Franchement, il est trop tard pour qu'on réussisse à faire ce que vous faites dans le livre et à déplier complètement, puis de toute façon, moi, j'ai pas les outils, exactement les endroits théoriques où ils se rencontrent et peut-être où ils discutent, sont d'accord ou pas d'accord. Mais est-ce que vous allez réussir ce tour de force de nous dire en peu de temps comment répondent-ils au présent Jacques Derrida et Michel De Guy à la question du mode avion, quand on met nos téléphones en mode avion, ce serait prétendument pour se rendre disponible au moment, disponible au présent. Comment répondent Michel De Guy et Jacques Derrida ?
Oui, j'ai fait la constatation simple que ces deux hommes se sont côtoyés, ils sont strictement contemporains, ils sont de 30 tous les deux. Mais ce qui m'a intéressé en effet, c'est que l'un répond philosophiquement et l'autre poétiquement à une question qui est la question de toutes et de tous, et je le redis, c'est la question de toutes et de tous, et si je le redis, c'est pour bien faire comprendre que le rapport entre poésie et philosophie n'est pas une question d'universitaire. C'est pas une question d'intello, c'est une question de vie, en fait. Ce que fait Derrida, en inventant le concept de différence avec un A, c'est de dire qu'en fait, quand nous sommes persuadés d'être présents à quelque chose, à ce moment que nous partageons maintenant, etc., en fait, cette présence, elle est constamment traversée d'absentéisme, d'intérim, de supplément, de manque, de trou, de défaut. Et j'ai été très frappé de constater que la poésie de De Guiche, il le dit, hein, il emploie cette expression merveilleuse qui est « faire défaut ». C'est une expression merveilleuse, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est défaut, puisque le défaut, c'est un manque. Et donc le poème fait défaut, et le faire défaut, c'est la pratique poétique de la différence, c'est-à-dire la conviction que la présence au présent n'est jamais une chose qui va de soi, et que si nous écrivons, c'est aussi dans cette espèce de retard, vous parliez d'Orphée, de cette espèce de retard qui, en réalité, motive notre écriture, mais qui est une course à jamais perdue.
Vous dites qu'il faut désirer le défaut d'Orphée.
Il faut désirer le défaut d'Orphée, oui, oui, absolument. Oui, oui, je crois que c'est...
Ça veut dire qu'il faut, au lieu de se méfier de celui qui veut absolument se retourner pour voir l'aimer une dernière fois, mais du coup la perdre, vous dites non. Peut-être qu'il faut désirer avoir ce désir-là.
Oui, oui, je le crois très profondément.
C'est-à-dire ?
Ben, je crois qu'il faut accepter que nous ne sommes pas les propriétaires de notre présent. Nous y manquons souvent, et que c'est dans ce manque que nous essayons d'écrire et que nous essayons de rejoindre. Et bien sûr, c'est tragique, mais il faut aimer cette tragédie parce que c'est aussi ce qui nous émeut dans les livres.
Alors, puisque vous parlez de faire défaut, et Michel De Guy fait aussi une sorte de pensée de la déception, quelque chose de positif et rieur. Dans une autre archive, il racontait une anecdote où Hélène Cixous lui demande de définir, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la poésie? Et il dit, ce jour-là, j'ai été déceptif, mais dans cette déception, en fait, je faisais quelque chose oui, de créatif dans ma réponse. Je dois dire que, en vous lisant et en étant tellement, je sais pas, heureuse et déplacée et agitée de vous lire, j'ai eu la déception d'un manque qui était pourquoi je me sens tellement pas entourée de personnes femmes dans ce livre-là? Pourquoi ce livre n'agite qu'un référentiel masculin, quasiment exclusivement, sauf Killing Me Softly, que j'aime tant et qui est plutôt chanté par une femme, Martin Rebeuf? Est-ce que c'est qu'une question d'époque, de canon littéraire, de...
Alors,
Ça m'a manqué, puisqu'on parle de manque.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que vous avez... Nathalie Quintane, dans un recueil récent qui s'appelait... Où était présent aussi le regretté Pierre Alféri, Bailly, etc. Expliquait combien, quand elle était entrée sur la scène de la poésie, ça manquait de femmes. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait des femmes, mais elles étaient, selon l'expression...
Silenciées,
ouais, invisibilisées. Alors, De Guy, lui, dans sa pratique de la revue, par exemple, a beaucoup, disons... donner voix à des poétesses femmes, et dans le comité, il y a de plus en plus de femmes, Tiphaine Samoyot, Camille Bloomfield, Claire Polian, donc si vous voulez, les femmes sont présentes. De fait, quand on rend compte de cette poésie de ces années-là, de ces grands aînés...
On rend aussi compte de cette absence.
On rend aussi compte de cette absence. Et c'est vrai que dans The New Orpheum, le dernier poème, en fait, j'essaie de donner à Eurydice une voix. J'ai été très frappé d'ailleurs par le fait que dans la version ovidienne, Eurydice ne dit rien, alors que dans la version de Virgile, elle dit, elle s'adresse à
Orphée.
À Orphée, oui, dans la version de Virgile.
Et elle lui dit quoi?
Et elle lui dit, c'est merveilleux, elle lui dit, nous nous sommes beaucoup aimés.
Ah oui, c'est vrai qu'elle lui dit, nous nous sommes beaucoup aimés. Oh là là, c'est horrible. Le Book Club continue.
France Culture, Le Book Club, Marie Richeux.
Vous le savez, Martin Rueff, vous qui avez qui êtes venu de temps en temps au Book Club, on joue à un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On cherche de la musique dans les livres. C'est vrai qu'on aurait pu passer Killing Me Softly parce que il traverse comme ça. C'est une des références musicales de Mode Avion. Mais sinon, pas de référence très évidente. musicales dans Mode Avion, si vous en voyez ou pas?
Oui, il y en a deux.
Allez, dites-moi. Ah ouais, on n'a pas choisi ça.
Vous avez cité King Arthur,
hein, ouais, Purcell. Absolument, absolument.
Il y a quelque part...
Dans le poème que j'ai lu.
Oui, ouais. Dans le poème que vous avez lu, il y a une chanson des REM au début, The Concrete, qui est une chanson qui s'intitule Why Not Smile. Et puis, il y a un écho assez lointain d'Étienne Dao. Donc, il y a des chansons.
Ah bon, c'est quoi l'écho?
C'est dans une chanson qui s'appelle Boulevard des Capucines, qui est dans Icare, qui est dans un ciel d'Ukraine.
En tout cas, on a proposé à un auditeur de jouer avec nous aujourd'hui. Il s'appelle François Xavier. Il nous a envoyé un extrait via le mail de Book Club. Je le rappelle ici parce que c'est à la fois comme ça qu'on peut jouer au grand jeu des pages musicales ou via le compte Instagram, mais c'est aussi par là qu'on peut nous écrire. Donc, sentez-vous libre de le faire. lebookclub@radiofrance.com. Il a choisi un extrait de Sonny Boy de Al Pacino. En allant à Boston, jouer du théâtre de répertoire, j'ai découvert un nouveau monde. Et j'ai commencé à entrevoir une nouvelle perspective au-delà de New York et du modeste cercle des influences off-off-Broadway qui constituait ce que je comprenais du théâtre à l'époque. On me confiait des rôles, j'étais payée et je pouvais m'acheter à manger. Et puis, je fréquentais d'autres comédiens spécialisés dans le répertoire ayant à peu près mon âge, 25-26 ans, mais qui semblaient savoir des choses dont je n'avais jamais entendu parler. J'avais mes livres de Tchekhov aux pages cornées et mes classiques, mais j'ai eu l'impression qu'on me divulguait un grand secret le jour où on m'a fait découvrir la musique des Mamas and the Papas. Le Charles Playhouse m'avait engagé pour jouer dans America Ura. Jean-Claude Van Italy avait écrit ses trois courtes pièces et je jouais dans deux d'entre elles. Chaque soir, je sortais avec toute la bande et nous chantions Monday Monday, que la chanson passe dans le jukebox ou pas. Nous étions tous ivres. Ivres chaque soir. C'est ça la vie de comédien. Comme dit Baudelaire, il faut vous enivrer sans trêve, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous.
Monday, Monday. So good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time.
Merci beaucoup Martin Rueff.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous pour parler de Mode Avion, paru aux éditions de l'Extrême Contemporain. Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à Garance Roubieux, Jeanne Aléos, Noé Margas, Mathilde Wagman, Julie Gastal, Marianne Chassor et Alexandra Lai-Begovic, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club.